Voilà, donc je reprends. C'est en septembre 1224, pendant le carême de la Saint-Michel, que François d'Assise reçut les stigmates dans la solitude de l'Alverne, comme on dit. L'Alverne, à savoir le Monte Laverna, dans les Apennins, aux confins de la Toscane et de l'Ombrie, dans le diocèse et la province d'Arezzo. Pour ceux qui connaissent un peu l'Italie, vous voyez où c'est. À l'image, vous avez une photo du sanctuaire de Sainte-Marie des Anges, édifié à l'emplacement du petit ermitage, non loin duquel se produisit l'événement. Donc, septembre 24, 1224, réception des stigmates. On sait que durant les deux dernières années de son existence, François d'Assise s'efforça de dissimuler autant que faire se pouvait les marques sanglantes. Ce n'est en tout cas qu'en octobre 1226 que dans une lettre encyclique sur le trépas des transitus, le transit de François, Élie de Crotone, encore appelé Élie d'Assise, Elia Bombarone, Élie de Crotone révéla en ces termes l'extraordinaire événement. Vous avez le latin. Alors, je vous ai donné une vieille traduction, bien facilement accessible. Naturellement, maintenant, on dispose de cet admirable chef-d'œuvre, n'est-ce pas, que constitue l'ensemble des écrits, vie et témoignages, édition du 8e centenaire de François d'Assise, dû à André Vaucher et Jacques Dallarin, le grand historien médiéviste Vaucher aussi, tous deux spécialistes de la sainteté féminine, entre autres choses, mais aussi pour Jacques Dallarin de François d'Assise. Donc, vous avez le texte latin et voici la traduction récente, au-delà de l'ancienne. Je vous annonce une grande joie et la nouvelle d'un miracle. Enfin, est-ce qu'une bonne traduction, est-ce qu'une mauvaise traduction ? Enfin, bon, la bonne traduction est celle-là, évidemment. Le monde n'a jamais entendu parler d'un tel signe. Tale signum. Si ce n'est dans le Fils de Dieu, dans le Fils de Dieu. Praeter quam in filio Dei, qui est Christus Deus, qui est le Christ Seigneur. Peu de temps avant la mort, notre frère et père apparuit crucifixus, apparu crucifié. Ils n'ont pas pris l'apparence du crucifié. Apparu, crucifié, portant dans son corps cinq plaies qui sont les vrais stigmates du Christ. Enfin, qui sont les stigmates du Christ. En effet, ses mains et ses pieds eurent, comme les perforations des clous, percés de chaque côté, conservant les cicatrices et montrant la noirceur des clous. Bon, mais en tout cas, quant à son côté, il apparut percé d'un coup de lance et laissa souvent échapper du sang. Donc voilà, le signum, le apparuit crucifixus et les quinque plagas, les cinq plaies, qui sont les véritables, qui sont vraiment les stigmates du Christ. Personne ne remet en question l'existence des stigmates. « L'accord, cela mérite d'être relevé avec Jacques Dallarin, se fait sur l'effet, n'est-ce pas ? Mais il ne se fait pas sur la cause. L'accord se fait sur la présence des stigmates, non sur le modus operandi de la stigmatisation. Il y a l'enquête de Bonaventure, ministre général de l'Ordre des Franciscains, bien des années après, qui débouche sur deux légendes, deux œuvres hagiographiques, la légende mineure et la légende majeure. Ce qui est sûr, c'est que François, surtout après la stigmatisation, était incapable d'aller à pied et qu'il était toujours porté par un ânon, un petit âne, rappelez-vous, au hasard, Balthazar. Le stigmate est un sot. C'est le terme qu'emploie Dante dans le Paradiso 11, vers 106-108, quand il évoque la stigmatisation. Nel crudo sasso intratevere ed arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra due anni portarono. Sur un âpre rocher entre le Tibre et l'Arno, il reçut du Christ le dernier sceau que deux ans ses membres portèrent, traduit l'amenait. Mais l'expression sceau n'est pas de Dante, elle vient de Bonaventure lui-même dans la légende mineure quand il évoque le sceau de ressemblance, le sceau de ressemblance avec le Dieu vivant, avec Jésus crucifié, sceau imprimé dans le corps de son serviteur, non par un effet de la nature ou de l'art, mais par la puissance admirable de l'Esprit du Seigneur. Donc, ni naturel, ni artificiel. Le stigmate est aussi un sacrement. C'est un sceau, c'est un sacrement. Un signe sacré, le signe visible d'une réalité cachée, selon la définition augustinienne du sacrement, hein, sacrificium ergo visibile in visibilis sacrificii sacramentum id est sacrum signum est. Le sacrifice visible est donc le sacrement, c'est-à-dire le signe sacré du sacrifice invisible. Pour Thomas de Celano, les stigmates sont un sacrement sur lequel François a voulu garder le secret. En vérité, le Père Vénérable a été marqué sur cinq parties de son corps par le sceau de la Passion et de la Croix, comme s'il avait été pendu en croix avec le Fils de Dieu. Comme si. Hein. C'est là un grand sacrement, et cela indique la majesté d'une affection privilégiée. Mais s'y cache une décision secrète et s'y abrite un mystère vénérable que nous croyons connu de Dieu seul et révélé en partie à quelqu'un par le Saint lui-même. Peut-on éprouver dans son corps la douleur éprouvée par un autre dans son propre corps ? On est ici dans un autre cas de figure que ceux mis en scène par Moritz Schlick, dont Strawson tire la théorie du « no-owner », du non-possesseur. Même si, en un sens, la stigmatisation est le cas par excellence où il serait vrai de dire « I can feel somebody else's pain as well as my own ». La stigmatisation est la réplique exacte de la souffrance du Christ. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'une part l'articulation entre extase et compassion, je reparlerai tout à l'heure, mais aussi le rôle de l'imagination, la dimension proprement iconographique de la production du stigmate. Dans la relation de l'événement, il y a quatre phases ou aspects. Un travail préparatoire de l'imagination, une première forme de compassion, une vision, et dans l'interprétation de la vision, au moment de l'interprétation de la vision, l'apparition des stigmates, c'est-à-dire la compassion proprement dite. J'insiste sur la compassion, car évidemment, il y a d'autres marquages chrétiens ou païens, d'autres écritures corporelles, d'autres inscriptions dans la chair, qui relèvent de la flétrissure. Qu'il s'agisse des stigmata Domini Jesu de l'Épître aux Galates 16-17, c'est-à-dire la marque des coups de fouet reçus par Paul ou la trace des lapidations subies pour la prédication de l'Évangile. Qu'il s'agisse encore des tatouages interdits en ces termes par Moïse dans un texte du Lévitique cité par l'encyclopédie d'Alembert et Diderot dans le deuxième des trois articles, le premier d'histoire ancienne, les deux autres de théologie, l'une païenne, l'autre chrétienne, que l'encyclopédie consacre aux stigmates. Vous ne ferez, je cite le passage du Lévitique, vous ne ferez aucune écriture de pointe, c'est-à-dire aucune stigmate imprimée avec des pointes, dit le texte du Lévitique traduit par l'encyclopédie. Hein, aucune écriture de pointe. Qu'il s'agisse enfin, mais il y aurait d'autres exemples, de l'extraordinaire suite de signes de sortie tracés sur les mains de Mère Jeanne des Anges par les démons graphomanes déchaînés, n'est-ce pas, affrontés par Jean-Joseph Surin, 1600-1665, comme le relate une de ses œuvres, le triomphe de l'amour divin sur les puissances de l'enfer en la possession, c'est-à-dire lors de la possession de la mère supérieure des Ursulines de Loudun, hein, donc la possession démoniaque prenant ici la place de la compassion. Sur Surin, hein, je vous rappelle l'existence, mais est-il encore besoin de le faire, mais enfin, des trois grands livres de Michel de Certeau, l'édition de la correspondance de Jean-Joseph Surin, le malheureux héros, n'est-ce pas, de l'affaire des démons de Loudun, donc la correspondance, la possession de Loudun, qui est une étude sur le phénomène, paru en 70, et surtout son grand livre intitulé « La fable mystique », Paris, Gallimard, 82, qui est à la mystique ce que les œuvres de Foucault sont à d'autres choses, d'autres domaines du savoir ou des pratiques ou des usages du corps. Pour ce que j'appelle les quatre phases, François d'Assise s'est retiré sur l'Alverne, le Monte Laverna, absorbé dans la prière, le jeûne, la méditation de la Passion, la veille de la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix, qui est un 14 septembre, tout transformé en Jésus par amour et compassion, dit une de ses légendes, il passe la nuit qui précède la fête, seul, en oraison, non loin de l'ermitage, et le matin venu, il a une vision que Thomas de Celano raconte en ces termes. Alors, c'est encore l'ancienne traduction. Je m'en tiens là pour plus de commodité. Il aperçut un homme de Dieu, une sorte de séraphin, qui avait six ailes et se tenait au-dessus de lui, les mains étendues, les pieds réunis, comme cloués à une croix. Deux ailes s'élevaient au-dessus de sa tête, deux se déployaient pour voler, deux enfin cachaient le corps tout entier. À cette vue, le bienheureux serviteur du Très-Haut fut rempli d'admiration. Mais il ignorait le sens de cette vision, et il était plein de joie quand il considérait la beauté du séraphin, plein de tristesse lorsqu'il pensait à son supplice et à ses douleurs. Et il sortit de sa contemplation, ballotté entre la tristesse et la joie qui alternaient dans son âme. Or, tandis qu'il réfléchissait avec inquiétude à ce que cette vision signifiait et qu'il s'angoissait à ne pouvoir la comprendre, les marques des clous commencèrent à se montrer, coeperunt apparere, sur ses pieds et sur ses mains. Donc vous avez les quatre phases, ce que j'avais appelé la première phase, il aperçut un homme de Dieu, la deuxième phase, il est rempli d'admiration, La troisième phase, il essaie de comprendre. Et la quatrième, les stigmates apparaissent. Notez ce mélange de joie et de tristesse. La beauté du signe, cause de joie, et l'horreur du signifié, cause de tristesse et d'angoisse. Notez aussi que le corps du Christ, donc ses blessures, est couvert par les ailes, est à la fois couvert et montré. Les plaies sont cachées dans la vision séraphique, elles apparaissent sur le corps du contemplateur, sur le corps du voyant, au moment où il s'interroge sur le sens de ce qu'il a vu. Voici deux représentations de la stigmatisation de saint François d'Assise, comme on dit, par Giotto. Mais précisément, n'est-ce pas, ce que vous voyez là, ça n'est pas ce que voit François. François voit ce personnage, ce séraphin, ce Christ séraphique, son regard porté vers le haut et tourné vers la vision. Ce qui descend vers le bas, c'est ce qui est d'ailleurs tout à fait extraordinaire pour ce qui est de la structuration et de la construction de l'espace pictural, n'est-ce pas, puisque ces divers traits qui commencent aux blessures du Christ et qui aboutissent aux stigmates traversent l'espace en tous sens, n'est-ce pas, en profondeur et en hauteur, en largeur. Donc on a véritablement une tridimensionnalité, on a quelque chose d'une perspective qui s'esquisse ici, d'ailleurs autrement encore, dans les petites chapelles latérales qui sont représentées là. Alors, bon. Deuxième, alors ceci vous pouvez le trouver au Louvre. Et voici une autre représentation, toujours par Giotto, qui est celle-là franchement admirable, hein, qui se trouve, elle, à la Cappella Bardi, à Florence, hein, à Santa Croce. Ça, c'est évidemment d'une très grande beauté. Vous voyez les ailes refermées qui cachent le corps, mais le cachent-elles vraiment? Les ailes ouvertes qui permettent le vol géostationnaire, et les ailes déployées au-dessus de la tête. Voilà donc deux représentations. Le stigmate est littéralement une réplique. La réplique est véritablement extraordinaire, puisque la chair reproduit, non pas seulement dans l'affaire des stigmates, n'est-ce pas, la chair, selon les témoignages, ne reproduit pas seulement les blessures, mais elle reproduit jusqu'aux têtes et aux pointes des clous. Ses mains et ses pieds, dit le texte de Celano, étaient percés de clous dans le milieu. Les têtes des clous rondes et noires étaient en dedans des mains et au-dessus des pieds. Les pointes un peu longues paraissaient de l'autre côté, se recourbaient et surmontaient le reste de la chair dont elles sortaient. Le côté droit était comme percé d'une lance et le sang s'échappait souvent de la cicatrice. Comment expliquer la chose ? Il y a deux explications. L'une qui attribue l'apparition des stigmates à la force de l'esprit. L'autre à l'action du séraphin, ou plutôt à sa coopération. La pensée du stigmatisé marquant la cible, hein, le séraphin dardant ses traits. Cette seconde explication, la coopération, est traditionnelle. Notez qu'on retrouve ici un problème de présence réelle. Si le séraphin est réellement présent, il darde de vrais rayons qui causent de vraies blessures. S'il n'est, comme on dit au Moyen Âge, qu'objectivement présent, comme objet de vision, causa mentale, il ne cause rien directement. La cause réelle, efficiente, est l'esprit. qui, selon une expression de Bonaventure sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, transparaît dans la chair. En somme, dans un cas, le séraphin fait quelque chose, dans l'autre, il ne fait rien. Cause efficiente dans un cas, coopérante, cause occasionnelle dans l'autre. Dans les deux cas, cependant, les blessures sont réelles. La première thèse est largement représentée. Mais la seconde, la force de l'esprit, l'est aussi. Alors, notez qu'il y a une ambiguïté possible sur esprit. S'agit-il de l'esprit de Dieu ou de l'esprit de François ? Et peut-on distinguer l'un et l'autre en l'affaire ? En tout cas, la force de l'esprit, c'est une explication qui nous est aujourd'hui familière. La force de l'esprit, disons plutôt la force de l'imagination. C'est l'explication médicale, psychosomatique, celle des médecins à la fin du XIXe siècle. Mais le médiéviste doit souligner qu'elle n'a rien de nouveau, cette explication médicale. La nouveauté est simplement le parallèle que le médecin fait avec l'hystérie. Mais l'idée d'une origine interne psychique est tout sauf neuve. Les stigmates couronnent, si l'on peut dire, une longue pratique imaginative. Alors, pour le point de vue médical moderne, je me contenterai d'un seul exemple, qui est celui de Dumas, le philosophe et le psychologue, qui était l'élève de Théodule Ribaud, le professeur de psychologie du Collège de France, dont Dumas suivait les cours au Collège de 1889 à 1896. Dumas, qui est l'un des premiers psychopathologistes qui se soit intéressé en France à la stigmatisation. La thèse est que François, qui s'est disposé par l'imagination à la duplication de la souffrance, est l'artisan, le réalisateur des tortures qu'il a imaginées et dont Dumas écrit qu'il les a d'avance, par avance, savourées en esprit. Mais alors ceci est dans le texte intitulé « La stigmatisation chez les mystiques chrétiens », paru dans la Revue des Deux Mondes en tome 39, 1907. Dumas était donc agrégé de philosophie, psychologue et élève de Ribaud. Mais ce rôle de l'imagination, nous avons vu Pietro d'Abano l'évoquer pour la compassion en général. Et la stigmatisation est, je le rappelle, l'extrême de la compassion. C'est le cas limite de la compassion. Nous ne nous étonnons donc pas de le retrouver mentionné, ce rôle, dans une lettre de Pétrarque, si ennemi des médecins soit-il. Pétrarque. Dans une lettre de Pétrarque à Tommaso del Garbo du 9 novembre 1366, rapporté par André Vaucher dans sa grande étude qui a fait date sur le scepticisme à l'égard des stigmates au Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Écartant donc l'explication de l'impression des stigmates par l'intermédiaire du séraphin, Pétrarque, n'est-ce pas, estime que celle-ci, cette impression, procède d'une méditation intense du mystère de la croix dont les effets se manifestent dans la chair du poverello d'Assise. Ceci figure dans un passage donc des lettres de la vieillesse, lettere senili. Quant au stigmate de François, voici certainement quelle en est l'origine. Il avait... sa méditation sur la mort du Christ, il s'y était adonné d'une manière aussi assidue, enfin, si profonde, si assidue, que l'âme en était rempli, hein, et qu'il lui, son arme en était remplie, et qu'il lui semblait, parendoli, d'essere anche egli crocifisso col suo signore, et que lui-même était crucifié avec son Seigneur. Eh bien, tout cela avait atteint un tel niveau d'intensité qu'on peut tout à fait dire que la forza di quel pensiero passare, on pouvait considérer qu'elle pouvait passer dall'anima nel corpo, passer de l'âme de François dans le corps de François, et la char venait. Et il laissait impresse visibilmente, imprimer de manière visible les tracce, les traces. Au XVe siècle, certains vont plus loin que Pétrarque encore, et André Vaucher rappelle quelques textes où il est dit qu'il y a des raisons purement naturelles qui rendent compte du phénomène de la stigmatisation. Et c'est contre de telles interprétations, disons, que les franciscains, l'ordre franciscain revient en permanence, n'est-ce pas, pour maintenir au contraire le caractère miraculeux de la chose. Ces tendances sceptiques, donc, je reprends le mot d'André Vaucher, trouvent leur point d'aboutissement dans le De Incantationibus, sur les incantations, de l'humaniste Pietro Pomponazzi, pour qui les stigmates, s'ils ont jamais existé, hein, ne peuvent résulter, je cite, que du jeu d'une imagination débridée. Je cite le résumé de Vaucher à propos de la position de la thèse de Pomponazzi. Alors, bon, je laisse de côté cet aspect. Je voudrais souligner un autre point plus important que tout cela, et en fait deux points, que j'emprunte à Hans Urs von Balthasar. Le premier point, c'est que Urs von Balthasar souligne le rôle de l'extase dans le récit que Bonaventure, Saint Bonaventure, fait de la stigmatisation de François d'Assise. Les stigmates, souligne Balthasar, sont imprimés dans le corps au moment précis où l'âme dépasse le corps dans ce qu'on appelle l'excessus mentis. L'impression corporelle coïncide avec un moment d'extase, hein, d'excessus mentis, et dans cette coïncidence, le corps stigmatisé devient l'image du Fils comme le Fils est l'image du Père. Deuxième point qui explicite le premier, c'est pour penser ce statut d'image du corps stigmatisé que Bonaventure introduit une différence à mes yeux capitale, la différence entre ressemblance et conformité, qui joue un rôle décisif jusque dans la mystique rhénane. Voilà ce que Balthasar dit sur la lecture que Bonaventure donne de la stigmatisation. François, voyant le Christ séraphique, saisit que, consumé par un feu spirituel, il sera lui-même changé, dit Bonaventure, paraphrasé par Balthasar, changé en l'image expressive du crucifié. Cette expression de Balthasar, image expressive, est le point principal à mes yeux. Ou plutôt, elle prépare l'introduction du point principal, à savoir l'introduction du terme et de la notion de conformité. C'est André Vaucher qui relève ce terme de conformité. Chez Thomas de Celano, dit-il, on ne trouve encore qu'une comparaison avec Jésus-Christ. Pour lui, François porte les traces de blessures comme si, vous vous rappelez, j'ai accentué cette expression tout à l'heure, comme s'il avait été suspendu à la croix avec le Fils de l'homme. Avec Bonaventure, en revanche, on passe du comme si à la conformité. Je cite l'analyse de d'André Vaucher. Le pas décisif est franchi avec la Legenda Maior de Saint Bonaventure, où apparaît pour la première fois le thème de la conformité de François au Christ, qui confère à son passage en ce monde une signification messianique. Pour lui, le Poverello, je cite, est l'ange du sixième sceau, grâce auquel s'ouvre un nouveau temps dans l'histoire du monde, qui est celui donc du renouveau de l'Église. Le signe qui permet de le reconnaître et de l'identifier au personnage dont parle l'Apocalypse, de Jean, et donc au sixième sceau, ce sont précisément celui qui ouvre le sixième sceau, ce sont précisément les stigmates qui font de lui une, je cite, humble image du Christ, et ça c'est l'expression de Bonaventure. Avec la conformité, on passe à la réalité. La stigmatisation de François est une seconde incarnation. C'est la thèse que développe un franciscain très original en général et qui là n'a pas froid aux yeux, n'est-ce pas, qui est Pierre de Jean Olieu, dont il a déjà été question dans ses cours, encore appelé Olivier. Par les stigmates, dit Olivier, Pierre de Jean Olieu, François est devenu véritablement un autre Christ. Notez que le passage que je vais vous lire, enfin que vous allez avoir sous les yeux en latin, est placé sous l'autorité de Bonaventure dans un sermon que Olieu dit avoir entendu à Paris. Il évoque donc les glorieux stigmates, n'est-ce pas, qui ont été imprimés. À François, n'est-ce pas, sur François, en François, par le Christ. Bon, par ces glorieux stigmates, on voit bien que il est véritablement, véridiquement, l'ange qui ouvre le sixième sceau, hein, lui qui a le signe du Dieu vivant, hein, à savoir le signe des plaies du Christ crucifié. Et on voit aussi qu'il est, alors là, c'est là que c'est extraordinaire, « Signum totalis transformationis et configurationis ipsius ad Christum et in Christum ». Le signe, n'est-ce pas, les stigmates, c'est le signe, sont le signe de la totale transformation et configuration de François au Christ et dans le Christ. Donc, et tout cela est attesté de multiples façons et a été rappelé par Bonaventure, le maître, le ministre général de l'ordre des franciscains, n'est-ce pas, et Pierre Olivier dit j'ai entendu cela, hein, je l'ai entendu dans un sermon prêcher cela. Transformatio et configuratio. Ce sont les termes des mystiques rhénans. Olivier tire cette analyse, cette formule, d'un sermon de Bonaventure qu'il dit avoir entendu à Paris en 1266 sur François, l'ange du sixième sceau, donc dans un sermon pour le chapitre de Pentecôte des franciscains en 1266, François, l'ange du sixième sceau. Mais Ubertino da Casale, Hubertin de Casale, dit avoir entendu le même sermon et rapporte le même contenu dans son livre « L'arbre de la vie crucifiée de Jésus »,« L'arbor vitae crucifixe Jesu ». Et nous avons la chance d'avoir un portrait d'Ubertino da Casale, le voilà, dans le film tiré par Jean-Jacques Haneau du roman d'Umberto Eco, titulaire de la chaire européenne au Collège de France en 92-93. Umberto Eco, mort le 19 février dernier à Milan, dont je salue ici la mémoire. Donc Bonaventure fait de la vision du séraphin l'argument de l'itinérarium, l'itinéraire de l'esprit vers Dieu, composé au cours de l'année 1259 après sa propre extase mystique lors d'une promenade sur le Monte Laverna. La vision est ici l'essentiel, car ce qui se produit, c'est que, selon ce que Bonaventure comprend de la stigmatisation, c'est que l'esprit transparaît dans la chair, et l'accent n'est pas mis sur le rayonnement séraphique. Voici donc le récit de Bonaventure. Alors, on a ici la représentation de Giotto. Il m'advint par inspiration divine, dit Bonaventure, vers la date du trépas du Bienheureux, à 33 ans de là exactement, de me retirer sur le mont Laverna, comme en un lieu tranquille, propice à trouver la paix de l'esprit. Et me tenant là, tandis que je méditais sur les voies qui permettent à l'âme de monter vers Dieu, me vint entre autres à l'esprit ce miracle qui se produisit en ce lieu quand apparut au bienheureux François un séraphin ailé à l'instar du crucifié. En considérant cela, il me sembla aussitôt que cette vision figurait la propre extase de notre Père dans sa contemplation et la voie par laquelle on parvient à celle-ci. Les six ailes du séraphin peuvent en effet fort bien être comprises comme les six degrés d'illumination qui, comme des étapes ou des stades préparatoires, préparent l'âme à parvenir à la paix par les transports extatiques de la sagesse chrétienne. Et la voie qui y conduit n'est autre que celle d'un très ardent amour pour le crucifié, de cet amour qui transforma si bien en Christ Paul enlevé au troisième ciel qu'il put dire « Je suis cloué avec le Christ sur la croix », ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. De ce même amour qui absorba tant l'esprit de François que son esprit transparut dans sa chair lorsque, avant sa mort et pendant 2 ans, il porta sur son corps les stigmates sacrés de la passion. Les six ailes du séraphin figurent donc les six degrés d'illumination qui, partant des créatures, nous font monter jusqu'à Dieu, à qui nul ne peut vraiment parvenir sinon par le crucifié. Alors, tout d'abord, notez trois choses, si vous voulez. Tout d'abord, la formule « son esprit transparut dans sa chair », formule qu'il va falloir revoir, re-questionner en fonction des travaux récents qui ont été faits et dont l'aboutissement est cette remarquable édition du 8e centenaire. Son esprit transparut dans sa chair, qui est le fondement de toute explication psychique, qui fait du corps une surface d'inscription où l'esprit imprime ses marques, trace, écrit. Je n'insiste pas sur ce point. Deuxièmement, notez la formule de Galates 2:19-20 décrivant le rapt de Paul, qui dédouble le narrateur enlevé au troisième ciel dans une sorte de chiasme identitaire où se croisent kénos et majesté. Le rapt, qui est l'équivalent en vision majestueuse, en élévation, de ce que la stigmatisation est kénotiquement en humiliation. C'est en somme le trajet inverse, l'apothéose, par distinction d'avec la kénose. Vous avez ici, selon les découpages, la partie Christo conflixus sum cruci, je suis crucifié avec le Christ, appartient tantôt à 2,19, tantôt à 2,20. Bon. Donc on a la Vulgate latine, on a Luther, ich bin mit Christo gekreuzigt, la version du King James, I am crucified with Christ, et une des traductions modernes, je suis crucifié avec Christ. Mais ce qu'il faut noter, c'est ce qui suit, zo de uketi ego, ze de en emoi Christos, vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus. Ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Now that's alive, yet not I, but Christ lives in me. et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Pourquoi j'ai parlé de chiasme identitaire, n'est-ce pas? Alors, le thème des six ailes, enfin, il s'agit des séraphins d'Isaïe 6:1-3. Vous vous rappelez que je posais il y a quelques semaines, enfin la semaine dernière, je crois, sauf erreur, d'où viennent nos idées, n'est-ce pas? Comment produisons-nous des énoncés? Eh bien, au Moyen-Âge, c'est véritablement un tissu de réminiscences et de sous-textes qui se croisent de telle façon que, d'une certaine manière, celui qui écrit est en quelque sorte écrit par ce qui s'est écrit avant lui. Et ici, le thème des six ailes vient en droite ligne d'Isaïe 6:1-3. C'est la grande vision d'Isaïe, la vision de Yahvé. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ces séraphins sont le prototype, à l'évidence, n'est-ce pas, du séraphin vu par François. La disposition des ailes est différente. La face du Christ apparaît, évidemment. Mais le nombre d'ailes est le même, 6. On le retrouvera bientôt ailleurs. Pour Bonaventure, et je terminerai là-dessus, le chapitre 1er de l'itinéraire de l'Esprit vers Dieu en détaille pour nous la signification de ces six ailes du séraphin. Du Christ séraphique et du séraphin d'Isaïe, d'une manière générale. Ces séraphins qui sont le prototype du séraphin vu par François, pour Bonaventure, ce chapitre 1er de l'Itinerarium, leurs six ailes renvoient aux six degrés d'élévation à Dieu selon 6 degrés ou puissance pour monter des choses les plus basses aux plus élevées, des choses extérieures aux choses intérieures, des choses temporelles à celles de l'éternité, qui sont les sens, l'imagination, la raison, l'intellect, l'intelligence, le sommet de l'esprit, encore appelé étincelle de la conscience. Ces six degrés, n'est-ce pas, ont été implantés en nous par la création, défigurés par le péché, rétablis par la grâce, purifiés par la justice, exercés par la science, rendus parfaits par la sagesse. Bonaventure a le rythme dans la peau. C'est bon. Mais les six degrés sont à rapprocher évidemment de textes de Richard de Saint-Victor dans le Benjamin Mayor, œuvre dont nous reparlerons la semaine prochaine, à l'occasion de quoi j'en viendrai à mettre écarte de rechef, à quelques considérations conclusives sur le thème de la semaine dernière et d'aujourd'hui, ainsi qu'à quelques remarques ouvrant sur l'année prochaine concernant le conflit des désirs et des volontés. Je vous remercie.